Orion 26, ça me dit quelque chose, ça me dit vaguement quelque chose, mais je sais pas, c'est pour être un programme de quelque chose, de je sais pas quoi. Mais ouais, ça m'angoisse, quoi. Pareil, quand il avait été question que demain on rentre en guerre parce que le chef des armées, je sais pas quoi, a dit que ça va être à notre porte, ben...
Bonjour à toutes et à tous, je vous l'annonce d'emblée, la joie de vivre légendaire et même proverbiale de notre émission, puisque ne dit-on pas dans les cours de récré une ambiance à la Zoom Zoom Zen ? On me signale en régie qu'on ne le dit pas, mais on le dira,
ça m'étonnerait,
on le dira, laissez-nous encore quelques saisons. Bref, la joie de vivre caractéristique de notre émission sera teintée aujourd'hui d'une certaine solennité, puisque nous allons zoomer sur un exercice militaire de grande ampleur, qui aura lieu ce week-end, exercice nommé Orion 26, qui doit nous préparer en cas de conflit de haute intensité sur le sol français. L'expression fait froid dans le dos. Le seul autour de cette table à avoir connu un conflit de haute intensité, c'est évidemment Cyril Lacarrière, ou plutôt le caporal Lacarrière, qui était en première ligne à Dien Bien Phu, piégé dans la cuvette par ses maudits Viet Minh, à qui il n'a jamais pardonné. Il n'a jamais pardonné. 70 ans plus tard, il refuse toujours de manger aux Vietnamiens. C'est simple, il y a deux choses qui le révulsent. La vision d'un banh mi et celle d'Eddie de Préto. La vision d'Eddie de Préto mangeant un banh mi équivalent pour lui à la définition de l'enfer. Même en jeu de mots, Cyril ne supporte pas qu'on lui rappelle le Vietnam, d'où sa réaction l'autre jour après la vanne de Pierre Courade, qui n'aime me suivre. Ah, c'est qu'il a encore de beaux réflexes, le caporal de la carrière. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen.
Copyright. Hein.
Bonjour Pierre de Jong.
Bonjour.
Vous avez aimé cette blague de Pierre Courade?
J'adore. C'est dans les nems aussi, t'attends bien.
Et c'est l'as des jeux de mots, vous le rencontrerez tout à l'heure. Vous êtes ancien colonel de l'infanterie de marine, vous avez aussi été aide de camp de François Mitterrand et Jacques Chirac. Aide de camp, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vous qui portiez la mallette avec le bouton nucléaire?
Alors entre autres, hein, si avec ça, pendant 4 ans avec la mallette, le bras droit un peu long, puis le bras court.
Pardon d'avoir résumé votre fonction à ça, mais il y a ça dedans dans le paquet.
Oui, il y a ça dedans. Il y a une mallette, effectivement, qui a le dernier grand mystère de la République, au passage. Hein.
C'est-à-dire
le dernier grand secret, personne ne sait ce qu'il y a dedans.
Oui, non, mais si, vous l'avez ouverte, cette mallette?
Bien sûr, j'avais au bout du bras pendant.
Alors, il y a quoi dedans?
C'est le dernier grand secret.
Vous n'allez pas le vendre comme ça, quoi?
Ah ben évidemment.
Tout par à volo, allez-y, là.
J'arrive à faire un bouquin.
Mais je l'ai fait.
Ah. Oui, mais
j'ai pas dit ce qu'il y avait dedans.
Il est fort, il est très très fort. Si on vous a invité, mon cher Pierre, cet après-midi, c'est pour nous expliquer ce qui va se passer à partir de dimanche. Donc, un vaste exercice militaire destiné à simuler un engagement majeur de haute intensité sur le sol français. Ces manœuvres s'appellent donc Orion 26. En quoi vont-elles consister? Est-ce qu'elles nous préparent vraiment à une guerre sur notre sol? Vous allez tout nous dire. Juste le temps de vous présenter ceux à qui ça va faire tout drôle quand ils seront mobilisés et qu'ils découvriront leur barda. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette matière? On n'est clairement pas sur un coton organique, là. Du cachemire, peut-être? Attends, c'est pas Jacques Mus qui fait les uniformes de l'armée française? Oh. Moi, je veux bien me battre, mais avec des matières nobles. Rousse Petron en cœur, Manon Mariani et Quentin Lhuy. Bonjour.
Bonjour à tous. Moi, je fais juste une belle couleur.
Voilà. Mais, oui, on veut bien aller sur le front, voilà. Bien habillé.
Vous ne choisirez pas. Vous ne choisirez pas. Manon, chaque après-midi, vous nous envoyez une pièce jointe du front.
Oui, aujourd'hui, je vous envoie un homme. Il est à la tête de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, autrement dit l'OTAN. Et vous allez voir, il est loin de faire l'unanimité. Auprès de notre invité aussi, il me semble.
On en parlera. Face à vous, mon colonel, il n'aura probablement jamais à porter les armes, même en cas de conflit majeur nécessitant la conscription, sachant que, vu ses résultats dans le quiz, il sera directement réformé P4. En attendant, paradoxalement, c'est lui qu'on envoie au front.
Oui,
quand à chaque matin, vous partez à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre mot du jour. Alors, est-ce que ces manœuvres Orion 26, ça les inquiète, qu'est-ce que... Parce que vous n'avez pas construit la phrase comme ça, c'est pour ça que je n'avais pas retombé sur mes pattes.
Ça s'entend quasiment pas, Mathieu. Continue.
Non, ça s'entend quasiment pas. Surtout si je continue comme ça d'expliquer que je me suis trompé dans la phrase.
Ça inspire de la peur. Vous l'entendrez notamment chez les plus jeunes. Et même si l'adage qui dit qui veut la paix prépare la guerre, on sent que ces manœuvres interrogent, intriguent quand même. Et que ça peut être un sujet qu'on évite aussi autour de la table par peur de l'évoquer.
L'adage qui dit qui? Oui.
L'adage qui dit qui veut la paix.
On l'a bien compris, mais vous savez, mais nos auditeurs aussi le vendredi sont un peu mous comme nous.
On est fatigués.
Les mots ont du mal à sortir de nos bouches.
Scotch.
Oui, c'est des choses qui arrivent. Vers 16h30, et si pour se dégourdir les jambes, on partait en vadrouille? On pourrait même faire les 400 coups, mais attention à ne pas passer l'arme à gauche. Oui, le quiz sera consacré non pas à Gigi Pop, mais à l'origine militaire de ces expressions devenues courantes. Après 17h, restez avec nous. Vendredi oblige, on se replongera dans une année marquante de l'histoire. Aujourd'hui, zoom zoom back, direction 2000. 2014, un avion disparaissait, ça arrive. Ce qui arrive moins, c'est que 12 ans plus tard, on ne sache toujours pas ce qui s'est passé. On va revenir sur le mystère du vol MH370. Mais d'abord, Pierre de Jong, cette opération Orion 26, elle va débuter dimanche, elle doit se poursuivre jusqu'en avril. Est-ce que ce genre d'exercice est courant déjà sur le sol français?
Oui, l'armée française en fait régulièrement. Ouais. De mémoire, en 87, j'ai participé à un exercice appelé Kekerspatz, Moineau Hardy, et qui visait en fait à transporter ou à déplacer en gros 20 000 hommes quand même déjà, vers le front de l'Est, en Allemagne. À l'époque, c'était une espèce de dispositif qui obligeait les Français, on était en deuxième échelon, et les Français étaient en renforcement des forces de premier échelon. Donc on l'a déjà fait. Orion existait déjà, Orion 2023 existait déjà.
Ah, c'est 2023 le dernier Orion.
2023, dernier Orion.
Et là, 2026,
alors... Pourquoi c'est gros? Parce qu'il y a eu 2022, il y a eu la guerre, il y a eu la guerre en Ukraine, donc aujourd'hui c'est un sujet d'actualité. Donc aujourd'hui on communique dessus, d'autant que non seulement il y a pas mal d'hommes, il y a 12 500 hommes, ce qui est déjà beaucoup, 4 brigades, c'est pas mal, mais surtout il y a un système totalement intégré, international, il y a une partie OTAN, il y a une partie interarmée, donc globalement c'est assez global. Et donc l'armée aujourd'hui a besoin... de communiquer pour plusieurs raisons. D'abord pour montrer sa fiabilité, le fait qu'elle est capable de le faire. Et puis deux, il y a comme des budgets qui augmentent. Il faut bien justifier de l'augmentation des budgets.
Face à vous, Pierre de Jong. Lui, les conflits de haute intensité, il a donné. Voyez cette ignace? C'est une moumoute. Il a perdu tous ses cheveux.
C'est un toupet.
Il a perdu tous ses cheveux le 6 août 45 à cause des radiations d'Hiroshima. C'est lui qui pilotait Enola Gay. Caporal de la carrière au rapport.
Oui, bonjour Mathieu.
Oh non, dis donc, c'est pas comme ça qu'on dit dans l'armée.
Au rapport.
Vous avez perdu vos notions. Officier vieux.
Bonjour chef.
Cyril, vous qui êtes le plus capé d'entre nous, oui. Racontez-nous Orion 26, d'où ça sort?
Imaginez hiver, printemps 2026, dans le Massif central ou en Champagne, des milliers de soldats débarquent, des chars traversent les villages, des avions survolent les campagnes, des cyberattaques coupent les réseaux. Ce n'est pas une invasion étrangère, ouf, c'est l'exercice Orion 26, une simulation pour préparer nos armées. Et si on prépare nos armées, c'est à cause d'un choc stratégique. Pendant 20 ans, l'armée française a fait de la contre-insurrection. On traquait des petits groupes terroristes très mobiles sur lesquels on avait la supériorité aérienne et technologique. Mais la guerre en Ukraine a tout changé. C'est le retour de la haute intensité. L'état-major a réalisé qu'il fallait réapprendre à se battre contre un ennemi pair aussi bien armé que nous. C'est comme ça qu'est apparu Orion 23 en 2023 et maintenant Orion 26.
Et historiquement, il y a toujours eu ce genre d'exercice, on l'a dit.
Ça remonte en effet à très loin. L'ancêtre de tous ces exercices, c'est le Kriegsspiel prussien au 19e siècle.
Tiens donc.
En 1824, un officier prussien qui répond au doux nom de Georg Heinrich Rudolf Johann von Reinswitz présente au roi un jeu avec des cartes, des dés et des petits blocs de plomb. Le roi comprend que ça peut être plus qu'un jeu, une manière de simuler une bataille et de préparer des tactiques. La guerre froide sera aussi l'occasion pour tous les pays concernés de faire s'exercer leurs troupes. Alors, d'où ça sort Orion 26? Eh bien, simplement, du retour de la guerre. Et ce n'est que le début d'une histoire qu'on aurait aimé peut-être ne pas revoir.
Merci Cyril, et nos auditeurs fidèles auront remarqué que vous parlez beaucoup mieux allemand que l'anglais. Qui en dit long sur votre positionnement durant la Seconde Guerre mondiale. On ne creusera pas ce dossier, mais c'est inquiétant.
Cet accent, Cyril.
Oui, c'est inquiétant. Pierre de Jong, d'où ça sort Orion 26, du retour de la guerre, nous dit Cyril. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette citation?
Oui, absolument. Il faut absolument, effectivement, réentraîner les forces, réentraîner l'armée française. Il y a pas mal d'argent. Vous savez que le président Macron a quand même quasiment doublé les budgets des armées. Donc il faut le justifier, il faut le montrer. Et puis les armées ont besoin de sortir. Parce qu'aujourd'hui, les camps militaires sont beaucoup trop petits. Donc en fait, on est sur des modèles extrêmement restreints. Et là, on vient de parler de haute intensité. La haute intensité nécessite des effectifs, d'avoir le champ libre. Et donc là, encore une fois, c'est une manière d'agir en terrain libre. Vous vous rendez compte, l'exercice va commencer en Bretagne et va terminer dans les camps de Champagne. Il va y avoir en gros 24 nations qui sont concernées. Donc c'est un énorme exercice qui va permettre de valider non seulement la capacité des hommes, bon ça on n'en doute pas bien évidemment, mais deux, la capacité du système international à commander ce genre de troupes. Et ça c'est extrêmement difficile, au-delà du fait que toute armée comme tout système a besoin de communiquer, et donc c'est un formidable outil de communication. Et notre armée, aujourd'hui la France, on a la chance d'avoir un pays qui accepte et qui sont concernés par les questions militaires, et donc c'est quand même très pratique de pouvoir communiquer, de la montrer. Et les militaires sont fiers de leur état et donc ils vont pouvoir le montrer.
Et ça crée des vocations aussi?
Oui, bien évidemment. C'est vrai que vous avez parfaitement raison puisque le service national revient. On va recruter 3 000 hommes cette année, 6 000 hommes l'année prochaine. Ça va monter en puissance. Donc c'est vrai que l'armée a besoin de communiquer et de montrer ses savoir-faire.
On va voir, nous, on va voir des rafales passer, comme j'ai dit pour rire, ou ça va être secret, on va rien voir du tout.
Si vous êtes sous la trajectoire, bien évidemment.
Oui, mais bien sûr.
Si vous êtes en Bretagne, vous verrez effectivement le débarquement. Allez dans la région de Vannes, par exemple, ou la presqu'île de Quiberon, ou même à Ouessant, où il y aura des débarquements, ça va durer quasiment pendant un mois.
Mais les Français sont au courant quand même, parce que ça peut être flippant de voir ça.
Mais grâce à vous, ils vont l'être.
Oui, non, mais clairement. Non, mais, oui.
Si
non,
on
mais
voit est-ce 25 que, navires de guerre arriver.
Est-ce que l'armée communique quand même pas
alors,
mal
oui, oui. Ça, honnêtement, ça communique sérieusement depuis une dizaine de jours, parce qu'on ne peut pas avoir. Un exemple, vous savez que la phase 3 de l'exercice, c'est la prise de Rennes. Donc j'imagine que dans Rennes. C'est...
Ah oui, la ville de Rennes.
La prise de Rennes. Donc, en fait, il va y avoir une simulation, bien évidemment, mais il va y avoir globalement 2000 ou 3000 hommes qui vont rentrer dans Rennes à un moment donné, par les rues, par les. Donc si vous voulez, ça implique un environnement extrêmement compliqué. Sachant qu'au milieu de tout ça, il y a un point qui est très important, c'est ce qu'on appelle la défense opérationnelle du territoire. Donc vous avez 11 ministères qui vont être concernés. Oui. Donc il va y avoir un débat sur comment on protège le pays, qu'est-ce qui va se passer, les soins, les hôpitaux, etc. Donc c'est un exercice qui est extrêmement important, qui va durer 3 mois.
Mais concrètement, pour qu'on voit à quoi ça sert, ils vont pas se tirer des balles dessus, ni même ils vont pas se tirer avec du paintball. Enfin, comment ça marche en fait?
Qu'est-ce qu'on peut
tester? Qu'est-ce qu'on fait en fait?
D'abord, une armée de terre, ça progresse. Les trois armées sont concernées. Donc un, vous avez la marine. Donc vous êtes en Bretagne, vous allez avoir un paquet de bateaux. Vous avez le porte-avions, vous avez les trois porte-hélicoptères, même des sous-marins. Enfin, il va se passer plein de choses. Le bord de mer.
Faut pas aller pêcher ce jour-là.
Il va y avoir un débat. Ah ben, on va éviter. Encore que ça chasse les poissons. Si vous avez un poisson, faut je suis breton, donc on peut gérer ça différemment. Deuxième point, il y aura un débarquement sur les plages. Donc ça va durer pendant au moins une semaine. Vous rendez compte, les matériels, les renforcements, le débarquement des états-majors. Ensuite, il y a la prise de Mecon. Donc vous avez la 11e brigade parachutiste qui va sauter sur le camp de Mecon. C'est ce qu'on appelle une prise de position, pour se dire, bon, on ne pas le jargon technique. C'est-à-dire, il y aura du monde. Les gens qui sont bretons, ils vont en avoir jusque-là. Après, comme ils vont en avoir jusque-là, ben, ça va translater. Après, ils prennent le port de La Rochelle. Donc tout ça, ça va être vers le sud.
Mon Dieu.
Port de La Rochelle. Pourquoi? Parce que manœuvre logistique, les gros bateaux, etc. Et là, ça va démarrer avec les lourds.
Mais ça va être un film,
lourds,
en fait.
Pardon?
Ça va être un film.
Mais c'est un film. Mais tiens, vous savez, le...
Orion 26.
Ouais.
Orion 26.
Heureusement qu'on en parle cet après-midi sur France Inter, sinon il y a des Bretons qui auraient été un peu surpris, je pense,
oui,
ce week-end.
Hein,
qui auraient...
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Enfilez vos treillis, les gauchias, on va leur montrer à la commission d'enquête si on est des wokistes dans Zoom Zoom Zen. Ainsi avait parlé Cyril Lacarrière avant de sonner le rappel, visiblement inspiré, voire galvanisé par notre thème du jour, Orion 26, ce vaste exercice militaire qui va débuter dimanche. Le colonel Pierre de Jong est avec nous. Colonel, quel est l'objectif exact de ces manœuvres qui vont rassembler, je le disais, plus de 12 000 soldats français? Est-ce que c'est vraiment une démonstration de force, créer des vocations, se rôder un petit peu, ou il y a vraiment un objectif opérationnel? On va tester des nouvelles choses.
Non, il y a un vrai fond, c'est que nos armées aujourd'hui redécouvrent la haute intensité, ce qui veut dire qu'en fait, des manœuvres interarmées, beaucoup de matériel international, il va y avoir des Anglais, des Britanniques, des Espagnols, des Roumains, enfin, tout ça, il y a vraiment du monde. Et tout ça, il faut apprendre à se coordonner. La coordination sur le terrain est fondamentale. Il y a les états-majors qui se découvrent également. Vous avez toute la partie, drone qui apparaît. Alors, jusqu'à présent, les drones, les Français n'étaient pas tellement concernés. Donc, il y a la partie drone, il y a la partie spatiale. Donc, vous avez un environnement qui est extrêmement compliqué. Donc, un exercice comme ça permet, en 2 ou 3 mois, de valider des concepts, de modifier la doctrine, de transformer les trajectoires. Et il faut le valider sur le terrain. Et malheureusement, on ne peut pas le faire avec de la simulation. Ça doit se faire en vrai. Et là, il faut que notre armée sorte des casernes et, en fait, elle va évoluer sur le terrain. Mais en même temps, et vous avez parfaitement raison, je termine juste là-dessus, c'est que très concrètement, c'est de la com. Donc ça permet encore une fois de montrer ce qu'on sait faire, les jolis soldats français, les Français sont fiers de ce qu'ils sont.
À l'échelle de la France, voire de l'Europe, ou de la com vis-à-vis des Russes, vis-à-vis des Américains?
Vous avez le choix, mon général. Vous faites ce que vous voulez, évidemment. Ça s'adresse évidemment à l'État français, l'opinion publique française, qui verra, qui comprendra où va son argent, parce que quelque part, ce sont les impôts de pays qui vont payer tout ça. Donc voilà où ça va, premier point. Et puis deux, c'est un message qui est adressé à nos adversaires potentiels, et aux Russes principalement, et même aux Américains. Parce qu'il y a aussi un débat au sein de l'OTAN. Il y a une partie otanienne sur la fin de parcours, dans la quatrième phase, qui est relativement importante. Donc là, on va réinscrire une action de la France au sein d'un environnement, je dirais, international avec l'OTAN. Donc l'OTAN dira ben, les Français comptent. Qu'est-ce que veulent les Français au milieu de tout ça? En fait, ils veulent être capables de commander ce qu'on appelle de commander une opération en premier, c'est-à-dire en fait d'être l'opérationnel et de commander l'opération. Aujourd'hui, en Roumanie, on est présent avec une opération qui s'appelle Aigle. On veut confirmer le fait que l'armée française est capable de commander quelque chose.
Quentin.
Vous parliez de la Bretagne tout à l'heure, de la prise de Rennes, de la prise du port de La Rochelle. Il y a aussi une diversité des terrains d'entraînement, si j'ose dire. Est-ce que la France est un bon pays pour s'entraîner avec sa façade atlantique, ses montagnes, la diversité des paysages?
Alors indéniablement, on veut dire c'est complet et puis c'est sur une faible distance, sur 1000 km. Donc c'est vrai que c'est complet, on peut le faire. En même temps, moi quand j'étais dans l'armée, j'ai joué ça des dizaines de fois. Le débarquement, ça se fait pas dans l'Auvergne, on le fait toujours en Bretagne, éventuellement ça peut se faire la région de Toulon en Méditerranée, mais c'est souvent dans l'Atlantique, donc le terrain s'y prête. Après il faut des camps. La 11e brigade parachutiste qui va sauter, elle va pas sauter en terrain libre, elle va sauter sur le camp de Côte-Quidan qui est suffisamment grand pour recevoir tout ça. Donc il y a quand même un côté artificiel dans l'exercice. Ce qui fait, c'est que ce qui est vraiment jugé au-delà du savoir-faire des hommes et des unités opérationnelles, c'est le commandement, c'est la coordination, et ça c'est très très compliqué à organiser. La logistique, un exercice d'ASEAN Fall qui s'est tenu l'année dernière, en octobre-novembre 2025, pour aller en Roumanie, c'était très compliqué, parce qu'on a réalisé que entre la France, si vous voulez, et la Roumanie, il y avait la classe des ponts ne pouvait pas supporter nos chars, l'écartement des rails n'était pas toujours le bon.
C'est
extrêmement complexe. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on raisonne dans un environnement, je dirais, interarmée internationale qui est extrêmement lourd, et ça va modifier les trajectoires, ça va modifier les budgets, ça va modifier les matériels, et ça va modifier des doctrines.
Je lisais pire que la Russie n'était pas nommément citée dans le scénario élaboré. Officiellement, il s'agit d'un conflit fictif entre l'Arland et Mercure, un voisin expansionniste à l'Est. Clairement, on comprend que c'est si la Russie voulait grignoter plus vers l'Ouest, en fait.
Alors, c'est pas chic, parce que dans le temps, on disait les bleus, les rouges. Les rouges, c'est toujours les mêmes, nous, on était les bleus, l'affaire était calée. Bon, là, ça trouble un petit peu, on va faire ça comme ça, quoi.
L'Arland et Mercure, c'est vraiment ce scénario-là qui est complètement
bizarre. Mais mieux que ça, c'est qu'on veut bien que l'État pour lequel on intervient, c'est l'Ukraine.
Oui.
Je ne le cache pas, bien évidemment. Oui. Et l'Ukraine qui est menacée par son voisin. Donc on est vraiment dans le cadre du renforcement d'un allié ou d'un camarade ou d'un pays ami qui demande notre aide.
Mais justement, le précédent exercice Orion date de 2023, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était le premier. Est-ce qu'il ressemblait déjà à ce qu'on va vivre là ou il était quand même assez minime, contrairement à celui-ci?
Alors c'est assez minime pour plein de raisons. D'abord, le montage d'un exercice comme ça, ça prend un temps fou.
Ah, oui.
L'état-major, il faut bosser pendant des jours et des jours. Deuxième point, ça coûte relativement cher. Donc je pense qu'un truc comme ça, on va le faire tous les matins. Donc on va valider quelque chose. Après, il n'est pas impensable qu'on recommence, mais avec un autre pays. Parce qu'on peut imaginer qu'on peut partir d'Espagne, on peut partir d'ailleurs. Parce que l'ensemble des pays qui sont au sein de l'OTAN ont besoin de valider tout ça. Et toutes les armées européennes sont en train de monter en puissance. Je vous rappelle que notre budget de la défense est à 2,9% du PIB. On va passer à 3%, 4%, et on a tous signé pour 5%. Donc on va doubler les budgets de la défense. On est actuellement à 50 milliards, on passe à 70, assez rapidement, peut-être même 100 milliards dans les années qui viennent. Et les Allemands sont à 120, 130, donc on est sur des modèles extrêmement lourds, donc nos armées se renforcent, et ça, il faut le montrer, il faut le démontrer, il faut que notre camarade russe, notre Popov de service, il se rende compte que les Européens ne sont pas rien.
Espérons qu'ils nous écoutent. Si jamais un
ils
jour
écoutent,
la France devait être envahie, moi je propose de manière assez simple qu'on envoie devant Quentin. Il a l'expérience du terrain, il sait engager le contact. Moi, à quoi pourrais-je bien servir? Rien que de croiser quelqu'un dans le couloir d'Inter, sur moquette, je suis déjà pas à l'aise.
C'est vrai.
Quentin,
c'est bien de
vous voulez reconnaître.
L'action, c'est votre dada.
Je me faufilerai.
Hein, justement, vous avez interrogé les gens sur cet exercice Orion 26.
Ma première rencontre porte une veste en cuir rouge qui attrape l'œil, des Doc Martens bien épaisses plantées dans le bitume, les cheveux bouclés qui débordent un peu dans tous les sens. Elle a ce style un peu rock, un peu affirmé. Bonjour.
Oui, bonjour.
Quel est votre prénom à vous?
Camille.
Camille, vous avez quel âge?
26 ans.
C'est quoi votre métier ou votre truc?
Je suis comédienne.
Vous avez fait des comédies musicales?
Oui, quelques-unes, des petits trucs.
Voilà. Nous, on aime chanter dans l'émission. Elle découvre le mot, puis le chiffre sur lequel on se penche aujourd'hui. Cet exercice militaire qui démarre le 8 février jusqu'au 30 avril 2026 en France.
Orion 26? Ça me dit quelque chose, ça me dit vaguement quelque chose, mais je sais pas, ça pourrait être un programme de quelque chose, de je sais pas quoi. Ah oui. Si, j'en ai entendu parler sur Hugo Décrypte. Ben, ça fait peur. Ça rappelle quand même des heures carrément sombres, on va pas se le cacher, ce qui se passe aux États-Unis et tout. J'avais vu il y a quelques temps le documentaire sur la montée d'Hitler sur Netflix. Je sais pas si vous l'avez vu. Ben franchement, c'est chaud, hein. Faudrait que tout le monde le voit, hein, parce que c'est typiquement ce qui se passe aujourd'hui en France et aux États-Unis.
Et je sens quand même que tout ça la touche.
Moi j'aime, ça me fait super peur. Là, au mois de décembre, c'était compliqué. Et c'était une des premières fois dans ma vie où justement ça m'impactait autant ce qui se passe dans l'actualité, notamment aux États-Unis. Ça m'angoisse, quoi. Pareil, quand il avait été question que demain on rentre en guerre parce que le chef des armées, je sais pas quoi, dit que ça va être à notre porte, ben...
Le général Mondon qui avait dit il va falloir que la France accepte de perdre ses enfants.
Ouais, bah quel enfer. Bah non, on n'accepte pas de perdre des enfants. Dans quel monde on accepte de perdre des enfants?
Ma prochaine rencontre est tout en noir. Sweet, Ranger, ses cheveux peroxydés sur le dessus, blond presque trop clair et en dessous les racines qui trahissent un peu le naturel. Il est plutôt stylé. Son prénom c'est...
Glenn.
Vous avez quel âge, Glenn?
65.
Vous m'avez dit que vous n'étiez pas français.
Ouais, j'habite à Paris, mais d'origine aux États-Unis.
Il découvre Orion 26.
Les exercices militaires qui commencent, c'est en France?
Oui.
Mais c'est normal, non? Parce que c'est toutes les armées du monde, Italie, la France, Angleterre, doit pratiquer. Hein, donc, ouais.
Est-ce que ça fait peur? Est-ce que vous comprenez que
ça... Un peu, oui. Mais j'ai toujours peur, mais encore une fois, je reste optimiste. J'espère que le président, tous les présidents occidentaux, Macron, le Trump, le premier ministre de l'Angleterre, sont en bonne tête pour... ne pas accélérer les tensions du monde.
Ah, ne pas accélérer les tensions du monde en ce moment. Je lui demande quel regard il porte sur son pays d'origine. Trump, l'ICE.
Oui, ça me rend triste. Oui, ça me rend triste. Mais encore une fois, après les prochaines élections américaines, le président Trump va partir. Mais le nouveau président, à gauche, à droite, j'espère que ce nouveau président soit plutôt centriste, au centre.
On connaît bien les centristes, nous, en France.
Ouais, le président Macron est plutôt centriste, non?
Ah oui.
Qu'est-ce que vous en pensez? Oui.
Oui, attends, un tout petit peu. Ma dernière rencontre porte un manteau vert sans histoire, un journal qui dépasse de la poche comme une petite habitude quotidienne et une écharpe bleue nouée sans y penser.
C'est pour l'émission avec Mathieu Noël.
Oh, si vous avez le nom, vous gagnez une barbe à papa.
Votre nom à vous?
Alors non, le nom de l'émission déjà?
Zoom Zoom Zen.
Ah ouais.
J'hésite, il y a un... Il y a un Quentin qui traîne dans...
qui traîne dans la rue, tout simplement. Allons, penchons-nous sur le thème de Zoom Zoom, Orion 26.
Alors, la dernière fois que vous avez fait un micro-trottoir, j'ai eu très peur parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, les gens étaient très pointus. Oui, alors évidemment, pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Donc ça, je le crois assez. Après, je me rends compte que je plombe l'ambiance à chaque fois que j'en parle.
Autour de vous?
Autour de moi. Alors évidemment, mes enfants, j'essaye de les préserver de ça pour qu'ils grandissent pas avec une anxiété supplémentaire. Effectivement, je crois que je suis comme tout le monde, en fait. On en parle pas mal, on en parle beaucoup dans sa tête. Parce qu'effectivement, quand on se voit entre amis, le premier qui ose lancer le sujet, il se prendait un peu des regards noirs, en mode, on a tous compris qu'il fallait faire quelque chose. On a, nous, une culture pacifiste qui date évidemment de 80 années. Donc on n'est pas pour la guerre, mais on a bien compris qu'il se passe quelque chose.
Est-ce qu'une guerre prochaine ou bien le fait que la nation se prépare devient tabou, comme un déni collectif? Je sens notre auditeur un peu perdu.
Et puis, pris aussi entre la peur d'être pro-guerrier, de se faire avoir aussi. De se dire, bon, tiens, effectivement, c'est bien qu'on se défende, c'est bien qu'on s'entraîne. Mais bon, donc j'ai commencé avec la paix, pour avoir la paix prépare la guerre. Et en même temps, quand on commence à avoir, ce qui est aussi connu, c'est quand on a une grosse armée, bah, faut en faire quelque chose. Et donc, en général, ça peut être aussi une invitation à la guerre. Donc.
Trois silhouettes, trois regards et au milieu, ce même vertige, celui d'un pays qui s'entraîne sans trop savoir comment en parler. C'est une prise de conscience diffuse, un peu collective, que la guerre n'est plus seulement un mot d'archive, mais une hypothèse avec laquelle il faut désormais composer.
Merci Quentin. Pierre de Jong, je rebondis sur cette dernière phrase qu'on vient d'entendre. Quand on a une grosse armée, il faut en faire quelque chose. Ça fait penser, dans le théâtre, il y a un dicton qui dit « quand un pistolet est sorti dans une pièce, il faut qu'il serve
».
Est-ce que c'est pas la même chose, en fait, avec ces budgets militaires qui montent, qui montent, qui montent? Un jour, on aura tellement investi dedans que, eh ben, au lieu d'y réfléchir à deux fois si quelqu'un dépasse une frontière et tout ça, ben, on dira ah, « on a investi, on est bien, on y va ».
Alors, il y a un mot de trop dans votre phrase, c'est le mot « gros ». En fait, c'est une petite armée. Notre armée est microscopique. Vous vous rendez compte, on a 7 brigades. Une brigade, c'est 7000 hommes. Donc, on a une force combattante de 49000 hommes.
C'est rien.
C'est à peu près les pertes de Bakhmout pendant une année avec Wagner. Donc, vous vous rendez compte, la guerre de haute intensité, c'est beaucoup de matériel, beaucoup de pertes. Donc, en fait, on est une petite armée. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est sur un... Et tous les Européens, c'est la même chose. On était sur un modèle de petites armées qui suffisaient. Et malheureusement, il faut gonfler. Pourquoi? Parce que vous avez un adversaire adversaire ou un ennemi à nos portes qui nous menace directement, quel que soit cet ennemi d'ailleurs. Mais en fait, il faut qu'il y ait une parité. Et donc la guerre de haute intensité fait qu'il faut qu'il y ait un équilibre dans les forces. Donc,
mais vous y croyez ? Vous pensez que c'est possible de les gonfler, ces armées ?
Vous savez, il y a un dicton qui dit qu'on a toujours une armée sur son sol, quand c'est pas la vôtre, c'est celle du voisin. Donc il y a intérêt à se bouger. Mmh. Et donc bien évidemment, et c'est une assurance, c'est une garantie. Évidemment, je ne le souhaite pas, mais évidemment, il faut se préparer à tout ça. Mmh. Et je pense que malheureusement, moi, je suis une génération qui a connu des guerres lointaines. Donc en fait, avec peu de pertes. Mmh. Malheureusement, je pense que la génération d'aujourd'hui, la folie humaine et la dégradation du droit international fait qu'aujourd'hui, la problématique de la guerre revient. Mmh. Et on voit bien dans les interventions de vos correspondants. Ou en tout cas de votre micro-trottoir, qui est vraiment bien fait, parce que les réponses étaient vraiment très très bonnes, je trouve. Il y a une espèce de réalisme dans ce qui est dit, une espèce de, mais également de froideur. Et ils ont parfaitement raison d'imaginer. Effectivement, la guerre est demain. Moi, j'ai un fils qui est dans l'armée, par exemple, je lui dis, tu sais, mon garçon, il est capitaine, je lui dis, tu sais, t'es la génération qui va connaître la guerre, d'une façon ou d'une autre. C'est une monstruosité, c'est une horreur, mais autant être prêt. Vous voyez ce que je veux dire? Autant en parler. C'est pour ça que votre correspondant, c'est très intéressant quand il
dit... C'est pas notre correspondant, mais il pourrait le devenir.
Oui, voilà. Avec ses copains, le soir, ouais, il n'en parle pas, parce que c'est un sujet qui concerne encore tout le monde. Ouais. Et ça concerne qui? Tous les Français de 18 ans à 65 ans.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Alors qu'on zoome aujourd'hui sur l'exercice Orion 26 qui démarre ce week-end en présence d'un ancien colonel de la marine française, il est temps de lui signaler qu'il a dans l'équipe un collègue, Pierre Courade, qui avant de devenir appui de Cyril Lacarrière, se destinait à une carrière dans la marine. Bercé par les récits de l'abbé Chibrard sur la franche camaraderie des hommes de mer, il était prêt à quitter ses montagnes pyrénéennes pour parcourir le monde. Une aventure de courte durée hélas, puisqu'il fut rapidement jeté par-dessus bord par ses camarades à bout de nerfs suite à son premier exposé sur les mérites comparés de la frégate et de la corvette par gros temps. Ce quiz consacré aux expressions de la langue française qui ont une origine militaire lui est donc dédiée. Jouons au Zoom Zoom Test. Et on commence avec une expression un peu désuète que Manon a longtemps mal comprise car elle croyait que faire les 400 coups était un objectif de body count. Il est grand temps de dissiper ce malentendu. D'où vient l'expression faire les 400 coups?
Ou les 400 coups de Porto.
Du nombre de coups de canon tirés lors du siège de Montauban en 1621, des 400 exercices imposés aux jeunes recrues indisciplinées des hussards napoléoniens, ou de la vitesse de tir des premières mitrailleuses Gatling, 400 km/h.
B. Pardon, j'ai crié.
Ah oui, c'est vrai.
Vous avez crié, très motivé. Hein.
Ah. B.
Ah. Le siège de Montauban, vous êtes sûr qu'il y a eu même un siège à Montauban?
J'en sais rien.
C'est une bonne réponse de Quentin.
Oh.
Il a répondu au hasard, ça lui réussit toujours.
Aujourd'hui, il a l'air hagard.
Aujourd'hui, faire les 400 coups.
J'assume, moi.
Faire les 400 coups signifie en gros mener une vie de débauche, de canaillou, sans respecter ni la morale ni les convenances. Exemple, Manon.
Coup d'un soir,
oui.
Relation
oui.
Taboue.
Oui, 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 on connaît, on vous connaît. Mais on vous connaît. Mais l'expression a été forgée en 1621. Louis XIII assiège Montauban au lieu du protestantisme pour obtenir la reddition de la ville. Il ordonne le tir simultané de 400 coups de canon. Alors que les habitants étaient en train de festoyer, pluie d'obus sur les bambocheurs, faire les 400 coups était né.
Mais c'est horrible cette musique.
Il jouait cette musique en même temps.
Évidemment, il a joué en même temps pour. C'était un moyen de torture psychologique.
Bien sûr.
Attention, main sur le buzzer du Gai Savoir, c'est reparti. Je dirais même plus, c'est reparti en vadrouille. Mais connaissez-vous l'origine de l'expression, son sens initial? Lorsqu'un soldat partait en vadrouille, à la base, ça signifiait quoi? Qu'il allait nettoyer le pont d'un navire avec une vadrouille, une serpillière à l'ancienne? Qu'il faisait une marche sous la pluie dans la vadrouille, autre nom donné alors à la gadoue? Ou qu'il allait relever les vadrouilles, nom donné au piège à gibier posé par les fantassins autour des campements?
B. Oh, on n'est pas d'accord aujourd'hui.
C.
Et est-ce que l'un... Est-ce que l'un des deux voudrait bien, ou est-ce que l'un des trois, mon colonel, voudrait bien donner la bonne réponse?
Bah, c'est A, du coup.
C'est la réponse A, Manon.
Bah,
c'est la réponse A, oui.
Enfin, ça ne peut pas être par élimination non plus, sinon on l'a fait au dé, la partie.
Mais c'est bon, Cyril ne m'accorde pas le point.
Ah, très bien.
Un des plus gros succès au box-office français de tous les temps aurait pu s'appeler la Grande Serpillière. La vadrouille était un balai fait de vieux morceaux de cordage fixés au bout d'un manche, utilisé pour le nettoyage du pont d'un navire. Fun fact, l'expression se prendre une vadrouille dans le fiac vient du châtiment infligé à Pierre Courade avant d'être jeté à l'eau par l'équipage. Excédé par ses masterclass en tout genre. Question suivante. Attention, votre cœur risque de se serrer à l'évocation de l'expression suivante qui sera bientôt d'actualité pour notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière. Passer l'arme à gauche. Elle signifie bien sûr décédé. Ce qui, vu son taux de cholestérol, n'est plus un horizon lointain, hélas. Mais d'après vous,
toucher sa tête.
L'expression passer l'arme à gauche viendrait de quelle pratique? Des soldats napoléoniens qui devenaient des cibles faciles lorsqu'ils déposaient leur fusil à gauche pour le recharger? Du Moyen-Âge, quand deux grandes familles s'unissaient, on refaisait les armoiries pour redessiner un nouveau blason. Ceux de l'époux étaient à droite, celle de l'épouse était à gauche, donc là, on renversait. Ou ça vient de la défaite de Waterloo, qui a été causée par une attaque par le flanc gauche. Et depuis, comme Cyril, on associe la mort à la gauche.
Ah, je suis devant.
Non.
Oh. Bah, presque envie de vous donner un petit point. C'était très difficile. C'était, il y avait deux réponses en fait.
Ah,
les historiens, c'était A et B. C'était A et B, Manon.
Dites-le quand c'est à plusieurs réponses possibles.
Il y a encore
possibles.
Une petite discorde historique sur l'origine exacte. Troufion, êtes-vous prêt? Voici la quatrième question du quiz. Elle porte sur une expression qui risque de vous concerner bientôt, vu le bordel des chaises musicales à France Inter, se faire limoger. Une expression qui vient d'un lieutenant qui avait été congédié par le général Lattre de Tassigny parce qu'il avait cassé une assiette en porcelaine de Limoges.
De Lattre de Tassigny,
oui. Oui, tout à fait. D'une erreur sur les uniformes de la garnison de Limoges qui empêcha un bataillon de défiler, ou du renvoi à la base arrière de Limoges des officiers jugés responsables de l'avancée des troupes allemandes en 1914.
C'est trop long pour être faux.
Non, bah...
La première réponse était longue aussi. Vous dites c'est.
Ouais,
c'est une
aussi.
Bonne réponse.
Ouais, je l'ai dit avant. Non, je suis pas certain.
Non, j'ai dit avant.
C'est Quentin qui l'a dit avant. Vous allez, ouais, ne vous étripez pas, la guerre va arriver bien assez tôt. L'expression se faire limoger renvoie bel et bien à la ville de Limoges où on renvoyait en 1914 les losers. Maintenant, je sais ce que vous pensez, ça n'a pas changé. Surtout ne le dites pas, car il reste une question, ça serait dommage d'être cancel juste avant. La dernière expression que je vous soumets, vous l'entendez souvent dans la bouche de Sybille Veil, la patronne de Radio France, quand elle croise Quentin. Ah, mais celui-là, quand est-ce qu'il arrêtera de faire le mariole? D'après vous, d'où vient cette expression?
Moi, je l'entends pas trop quand elle me parle. Mais...
Moi, je l'entends tout le temps, à chaque fois qu'elle me parle de vous. D'après vous, d'où vient cette expression faire le mariole? Du soldat mariole qui s'était fait remarquer par son empereur pendant une revue des troupes en portant non pas un fusil comme tout le monde, mais un canon de 100 kilos? Du soldat mariole qui avait joué les fous pour ne pas partir au front en 14? Ou du fromage le maroil? Mais les fautes de frappe, tu connais.
B.
Bah ouais, ça doit être ça. A.
Changer. Ah, sans conviction.
Non, avec conviction.
Avec conviction, c'est une bonne réponse, Quentin.
Oh. Oui.
Quand Quentin fait le mariole, il rend hommage sans le savoir au soldat Gay Mariole, une légende des guerres de l'Empire pour sa bravoure et donc, et aussi par sa taille. Il faisait plus de 2 mètres, d'autant plus paradoxal donc que Quentin fasse le mariole. Victoire de Quentin, Manon.
Bah, oui,
bah, oui. Vous êtes encore diminué.
Non. Merci à tous. Ça parle de l'armée, c'est un truc d'homme.
Un truc de bonhomme.
Voilà.
Orion, ça change.
J'ai
ça
pas
change.
Fait mon service militaire. Hein.
Orion,
pas
26.
Encore,
un nom de grosse fusée, mais en réalité un exercice militaire majeur qui démarre dimanche en France et doit se dérouler jusqu'au 30 avril. On est toujours avec l'ancien colonel de l'infanterie de marine, Pierre de Jong. Colonel, est-ce que cette vaste manœuvre va vraiment, on l'a dit, il y a une dimension de communication, mais est-ce qu'elle peut impressionner la Russie? Vladimir Poutine, il va se dire quoi en voyant ça?
Alors, il ne faut pas exagérer, évidemment. Ce n'est pas la guerre, mais bien évidemment. Ceci étant dit, encore une fois, le but n'est pas d'apprécier Poutine. Ça se saurait. Le problème, c'est un problème de doctrine. Nos armées européennes, elles sortent d'un modèle qui est un modèle de temps de paix. C'est un modèle, encore une fois, de, on faisait des guerres asymétriques. Notre ennemi était toujours un petit ennemi en mobilette, quelque part. Hein. Mmh. Aujourd'hui, c'est un ennemi qui est doté, qui est l'armement nucléaire, des missiles, etc. etc. Donc, on le voit dans les actualités en permanence. Donc, aujourd'hui, le niveau de la menace est monté extrêmement haut. Mais non seulement ça, la guerre était impensable, elle est redevenue possible, ouais. C'est ça le cœur du sujet. Et donc là, on est dans un modèle dans lequel la prise en compte de ça fait qu'il faut absolument travailler le sujet. Ceci étant dit, les Russes, je ne pense pas que ça va les empêcher de dormir. Hein.
Mais on a l'impression que la dissuasion nucléaire n'existe plus. Enfin, pendant toute la guerre froide, on nous racontait, moi à l'école, on disait maintenant que les grandes puissances ont l'arme nucléaire, il n'y aura plus jamais de guerre. Mais en fait, on se rend compte que ça ne se passera pas parce qu'en fait, personne ne déclenchera l'arme nucléaire et donc il y aura...
Alors qu'il n'y a que 7 pays qui ont l'arme nucléaire dans le monde, ce qui n'est pas beaucoup. Le deuxième point, c'est que le nucléaire ne dissuade que le nucléaire. Donc c'est une espèce de garantie de survie. Donc encore une fois, on peut très bien imaginer de rentrer en Ukraine demain matin, je prends un exemple concret, oui. la force de réassurance ou la coalition des volontaires,
la fameuse, oui.
telle qu'on dit aujourd'hui, mais là on n'est pas dans un domaine nucléaire. Pourquoi le nucléaire? Le nucléaire, c'est une arme défensive. D'abord, c'est une arme politique et une arme défensive. Donc en fait, c'est une arme, c'est fait pour communiquer. Et donc c'est une arme qui protège que vos intérêts vitaux. C'est ça le cœur du système nucléaire. Encore une fois, le nucléaire français n'est pas destiné amener des opérations offensives dans un pays comme la Russie. C'est pas le sujet du tout. Donc vous avez deux armées. Vous avez une arme nucléaire qui coûte extrêmement cher, 25% du budget au passage.
Ah oui, 25% est consacré au nucléaire.
Bah, vous vous rendez compte, c'est une technologie de pointe. Et puis il faut une armée conventionnelle, une armée, je dirais, normale, entre guillemets, qui est une armée qui protège les frontières, qui protège les populations et qui va aider ses alliés. Et là, en l'occurrence, l'exercice Orion 26 est destiné à rassurer un allié et de démontrer qu'on est capable de le faire. Parce que derrière tout ça, vous avez un discours politique qui est sous-tendu par le président Macron qui dit qu'il est prêt à aider ses alliés, etc. Donc là, on démontre qu'on est capable de le faire et qu'on peut le faire.
On avait parlé de l'exercice ZAPAD, exercice militaire russo-biélorusse qui s'était tenu en septembre. Est-ce qu'on est dans les mêmes proportions? Est-ce qu'on peut comparer ces deux exercices?
Alors oui, tout se compare. J'imagine que les Russes, lorsqu'ils montaient cet exercice, c'était non seulement international, mais en plus, on valide des doctrines, on valide des modes de commandement.
Mais autant d'hommes? Il y avait autant d'hommes?
Non, il y avait moins d'hommes. Mais en même temps, encore une fois, vous savez, tout est relatif. effectif. L'armée russe, est, aujourd'hui, c'est 1,5 million d'hommes. Donc c'est énorme. Nous, on est une petite armée. L'armée française, c'est 220 000 hommes. On n'en est pas là. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas sur le même modèle.
Et vous parlez tout le temps de l'armée française.
Oui, mais l'armée européenne.
Il n'y a pas d'armée européenne, mais si on met toutes nos forces ensemble, ça fait.
Vous savez, le total est bon. L'OTAN, c'est pas une armée. L'OTAN, c'est la juxtaposition des armées de différentes nations. Donc on peut pas considérer que les budgets de la France plus l'Espagne, etc.,
on
ça fait un budget total.
On peut pas.
C'est impossible. C'est impossible. D'autant qu'il y a de l'infrastructure, etc., etc. Donc, encore une fois, il faut analyser armée par armée, pays par pays, et à partir de là, de dire quelles sont les capacités. Puis au-delà de tout ça, encore une fois, c'est Clausewitz qui dit ça. C'est que, très concrètement, la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. On voit que les Européens à 27 sont totalement différents. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, sur le Groenland, il n'y a pas deux États européens qui disaient la même chose. Ouais. Donc, on voit bien qu'on est sur un modèle.
On a fini par gagner sur le Groenland.
Alors, on a gagné, puis avec la fleur au fusil, évidemment. On a même fini, avec des lunettes bleu marine. Donc tout va bien.
Mais vous dites effectivement que le budget de l'armée ne fait qu'augmenter, etc. Mais je lisais que quand l'état actuel de nos munitions, on ne pourrait pas tenir plus de quelques jours. C'est vrai, ça ?
Oui, trois jours, parce que ça coûte tellement cher. Je vous donne un exemple. Le missile Aster, qui est un missile anti-aérien, il vaut 2 millions d'euros le missile. Le Scalp vaut 850 000 euros. Donc, si vous voulez, la technologie, ça coûte extrêmement cher. Donc, si on veut avoir des... Alors, le problème, c'est qu'on peut avoir une armée qui défile sur les Champs-Élysées, une jolie armée, bien propre, astiquée, mais pas de missiles, pas de munitions. Mais dès lors que vous avez une armée qui a des prétentions, en tout cas, qui veut démontrer qu'elle est capable de faire des choses pour le pouvoir politique, évidemment, il faut avoir les munitions. Donc, le vrai sujet, c'est les stocks. Et aujourd'hui, il faut les reconstituer, ça coûte extrêmement cher. Donc, une partie des budgets de la défense qui vont être en augmentation... Évidemment, les stocks. Deux, il y a aussi le fait qu'on est. La marine, par exemple, on sait bien qu'un porte-avions ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que quand le porte-avions est en maintenance, ça va durer 6 mois, on n'en a plus qu'un. Donc, ce n'est pas possible. Alors, maintenant, on peut dire est-ce qu'il en faut un deuxième ou pas ? On peut en débattre. Aujourd'hui, le choix a été fait, il faut un deuxième porte-avions, etc., etc. Les frégates, on n'en a qu'une quinzaine. Et les frégates de premier rang, on n'en a que 6, par exemple. Alors, évidemment, c'est des engins incroyables, mais quand vous comparez avec l'armée américaine ou d'autres armées, je dirais moins amies, entre guillemets, parce que l'armée américaine, c'est pas un ennemi. Je prends l'armée russe, par exemple, qui est une armée extrêmement aguerrie. Même l'armée ukrainienne, aujourd'hui, est probablement meilleure que la nôtre. Ah oui, parce que c'est l'armée qui est aguerrie. 4 ans de guerre, ils sont aguerris, les gars, ils connaissent. Et aujourd'hui, notre armée française, elle sait. Alors, encore une fois, l'armée française est vaillante, est petite, est vaillante. Et encore une fois, elle est très opérationnelle. Pourquoi elle est opérationnelle? Parce qu'en France, on a une chance incroyable. On est un des rares pays en Europe où l'opinion publique est en général derrière son armée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Orion 26 arrive. Parce que ça colle. L'opinion publique n'a pas rejeter le fait que ces militaires sont dans les rues de Rennes ou dans les rues de La Rochelle ou débarquent sur les plages de Normandie.
Vous écoutez France Inter et la manière dont elle s'agite sur sa chaise, je sens que c'est l'heure de donner la parole à Manon. Pour votre pièce jointe, Manon.
Un homme politique aujourd'hui, Marc Rutte, le secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Si on voit beaucoup son nom passer, peu de personnes savent réellement qui il est. On fait un petit flashback, donc. Nous sommes en 2010 aux Pays-Bas. Un homme de 43 ans devient chef du gouvernement. C'est un ancien professeur d'histoire, libéral, plutôt discret. Marc Rutte s'installe à la tête du pays, qu'il dirigera pendant 14 ans. Sous ces gouvernements, plusieurs grandes réformes sont votées. Le durcissement des règles de l'assurance chômage, la réduction de la durée d'indemnisation. Il met également en place des restrictions sur certaines aides sociales. Et il soutient aussi une politique migratoire beaucoup plus ferme. Des réformes donc très à droite. Un scandale a notamment noirci son image en 2021. Des milliers de parents, souvent issus de minorités, ont été accusés à tort de fraude aux allocations familiales et ont été pénalisés par l'administration fiscale. Une catastrophe administrative qui provoque la démission de son gouvernement en 2021 avant qu'il ne soit réélu quelques mois plus tard. Et puis en 2024, donc nouveau chapitre, Marc Rutte est nommé secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Autrement dit, il devient le visage politique de l'alliance militaire la plus puissante du monde. Sa mission, maintenir l'unité des alliés occidentaux, soutenir l'Ukraine, dissuader la Russie, tout en gérant une relation de plus en plus imprévisible avec les États-Unis. Mais ses prises de position suscitent pas mal de critiques. En juin dernier, il avait fait parler de lui après avoir appelé Donald Trump « daddy » dans une soi-disant blague qui sous-entend surtout sa proximité avec le président américain, à qui beaucoup disent qu'il cire les pompes. Ça s'est encore prouvé ce mois-ci. Marc Rutte dit devant des Européens l'eurodéputée que si l'Europe pense pouvoir assurer seule sa défense sans les États-Unis, elle peut, je cite, « continuer à rêver ». En creux, l'Europe reste dépendante du parapluie américain. Les réactions ont évidemment fusé. À Bruxelles, la Commission européenne rappelle que l'objectif est de rendre l'Union plus résiliente et plus indépendante. À Paris, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, répond que les Européens peuvent et doivent prendre en charge leur sécurité. Dans un moment plus que tendu, le statut de Mark Rutte ne plaît pas à tout le monde et pourtant, il est aujourd'hui à une place très stratégique qu'il faut assumer.
Merci Manon. Pierre de Jong, Mark Rutte, un bon commandant de l'OTAN ou il est temps d'en changer ?
Ben, Rutte n'existe pas. Pourquoi ? Parce que l'OTAN, c'est quoi ? L'OTAN, c'est les États-Unis. 70% des forces qui sont au sein de l'OTAN sont des forces américaines. Donc vous enlevez les Américains, il reste 30%, ben, il reste Rutte et 30% des forces. Donc restons sérieux. Rutte, c'est le faire-valoir du système américain. Mmh. Il est devant. Voilà, il assume la mission. C'est pas un militaire, il assume la mission. Ça doit être très compliqué par les temps qui courent avec un ennemi russe qui apparaît, qui joue du tam-tam pendant que les Européens se posent plein de questions, etc. C'est compliqué. Comment faire vivre une institution qui est fragilisée ? Notre président Macron, rappelez-vous, il y a quelques années, a dit quoi ? Il dit très concrètement que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Donc même nous, on a considéré que l'OTAN était mort. Mmh. Donc tout ça, c'est compliqué. On verra dans les années qui viennent si l'OTAN perdurera. J'en suis pas sûr, mais c'est pas à cause du Rutte ni à cause des Français. Ce sera à cause de Trump. Il n'est pas impensable que Trump, demain matin, décide de larguer les amarres en disant les Européens, démerdez-vous.
Ça serait consistant avec le discours de J.D. Vance, notamment l'autre jour. Exact.
France Inter, Zoom Zoom Zen.
Afin de vous démontrer la gravité du cas clinique que représente Pierre Courade, je vous livre à présent mot pour mot le dernier message de Pierre dans notre groupe WhatsApp. L'histoire ne retiendra que trois vols. Le vol de la Joconde en 1911, les joyaux de la couronne en 2025 et le vol de mes victoires dans le Zoom Zoom Test en 2026. Pierre, mettez en sourdine votre mauvaise foi.
Vous riez à votre propre bien. C'est le seul.
Et vous soulignez que c'était très bon.
Non, mais vraiment.
Voilà, bah, tout est dit. Tout est dit, Pierre.
Mais dans la bouche de Mathieu, c'est encore meilleur.
On isolera, mon petit Pierre.
C'est audacieux.
Ouais, c'est très audacieux, ça va très loin. C'est le vendredi, on se lâche. Vous êtes dans Zoom Zoom Zen. Pierre, vous nous résumez en une minute chrono tout ce qu'on s'est dit sur l'opération Orion 26.
Oui, Orion 26, Orion pour opération de grande envergure, pour des armées résilientes, interopérables, orientées vers le combat de haute intensité et novatrice. Et 26, parce qu'on est en 2026. Orion 26, c'est le vaste exercice militaire qui sera conduit sur le sol français à partir de dimanche. Il doit s'achever fin avril. 12 000 soldats mobilisés, 25 navires de guerre, dont le Charles de Gaulle, 140 avions et hélicoptères, 1200 drones. Notre invité, le colonel Pierre de Jong, toujours aussi jeune comme son nom l'indique, nous a décrit un véritable scénario digne d'un film avec des débarquements simulés sur les plages bretonnes, la prise de Rennes et du port de La Rochelle. 24 pays vont venir nous prêter main forte pour déloger un ennemi fictif nommé Mercure qui ressemble furieusement dans son agressivité à la Russie. C'est d'ailleurs le retour des conflits à haute intensité en Europe qui pousse l'armée française à se préparer. Les soldats ont besoin de se déployer, d'avoir champ libre pour tester leur matériel. Mais c'est aussi l'occasion d'éprouver la capacité de la France à diriger une coalition européenne pour mener une guerre sur notre continent où l'on serait cette fois-ci en première ligne. La guerre est redevenue possible, nous a dit notre invité. Fin de l'opération Orient prévue en Champagne, de bon augure pour fêter la victoire, même si elle est fictive.
Merci Pierre. Vous regrettez pas d'avoir quitté la marine pour rejoindre le journalisme ?
Certainement pas, non.
Moi j'aurais touché votre pompon, Pierre.
Mais j'ai toujours un peu l'impression d'être dans l'armée quand je suis dirigé par Cyril.
Enfin, il semblerait que dans la ville, il n'y ait pas que deux choses auxquelles on n'échappe pas, la mort et les impôts. Il y a aussi, en ce qui nous concerne du moins, François Rollin. Bonjour François.
Bonjour, cher Mathieu. Alors, longtemps, je me suis couché de bonne heure, mais hier soir, j'ai fait une exception, j'ai veillé jusqu'à tard dans la nuit. J'avais en effet été saisi d'une injonction transcendantale consistant à traduire l'œuvre intégrale de Fyodor Dostoïevski en portugais. Et ça ne se fait pas en 5 minutes, figurez-vous. Alors, certes, il existe déjà une traduction de Dostoïevski en portugais. Il en existe même 3, mais à mes yeux, elles ne sont pas satisfaisantes. La traduction de Raimondo Pérez Sanchez passe, selon moi, complètement à côté de l'esprit de Crime et Châtiment. Celle de Jacques-Henri Soumaintrain est, à contrario, formidable sur Crime et Châtiment, mais elle dérape de manière assez malsaine dans la traduction des frères Karamazov. Quant à la proposition de Nicole Malinovitch, elle est inachevée en ce qui concerne l'idiot, ce qui la disqualifie totalement. Alors vous allez me dire, on ne peut pas en vouloir à Nicole Malinovitch d'être morte en plein travail. Je répondrai qu'un traducteur sérieux évite de manger du poisson à grosses arêtes en travaillant, s'il ne veut pas mourir étranglé et étouffé dans d'atroces souffrances, comme ce fut le cas de notre concert Nicole. Pardon, Bref, je sentais hier soir que le monde attendait de moi une vraie bonne traduction de Dostoïevski dans la langue de Fernando Pessoa. Cette simple idée me mettait une pression intenable que j'ai combattue en buvant des bières pression, justement, jusqu'à m'écrouler à 6h30 du matin. Ceci vous explique qu'à mon réveil à midi, j'étais un peu en vrac, comme disent les jeunes, un peu azimuté, comme disait mon père qui était polytechnicien. Et donc, je me souvenais assez distinctement que vous m'aviez confié une mission de confiance. Mais quant à dire la nature de cette mission, j'avais beau torturer ma mémoire ambrée, je ne trouvais que peau de balle et balai de crin. Expression par laquelle, je le mentionne au passage, j'avais pensé dans la nuit traduire le Nietzschevo de la nouvelle Les Nuits Blanches de Dostoïevski, parce que rien, le mot rien, ça dit bien ce que ça veut dire, mais peau de balai et balai de crin, ça a quand même nettement plus d'allure. À un moment, vers 13h, il m'a semblé me rappeler que vous m'aviez confié la mission d'écrire un quatrain plaisant et drôlatique avec exclusivement des rimes en chon, comme cornichon, berrichon, torchon, reblochon, cochon et l'impayable califourchon. J'ai commencé à y travailler, mais j'ai bloqué sur folichon. Terrorisé par ce mot qui ne s'emploie que dans la négation. On dit « c'est pas folichon », mais on ne dit jamais « c'est folichon ». Aïe, aïe, aïe. Et puis, il m'est apparu que cette mission de poème en chonchon n'était que la rémanence d'un cauchemar dans lequel je voyais votre rédacteur en chef, Cyril Lacarrière, qui est au demeurant nettement plus chef que rédacteur, me hurler « n'oubliez pas nichon et tire-bouchon, ça fera rire l'autre grand cruchon ». Mais encore une fois, c'était un cauchemar, on oublie. Finalement, c'est à 15h30 que je me suis souvenu que ma mission consistait à analyser et critiquer constructivement vos émissions de la semaine écoulée. Il était malheureusement trop tard pour entrer dans les détails. Je vous propose donc un résumé ainsi libellé. C'était ni fait ni à faire. Voilà. Prochai, malish, que je traduis par « atelogul, rapace ».
Merci, c'était vraiment votre meilleure critique, François Rollin. Quand vous ne nous écoutez pas, c'est vraiment la meilleure critique qu'on puisse attendre de vous. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Cette fois, vous écouterez quand même un peu nos émissions.
Mais bien sûr.
On reviendra au cahier des charges.
Mais bien sûr.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci Pierre de Jong de nous avoir expliqué les implications de l'exercice Orion 26 qui démarre donc dimanche. Merci, sacré pire. Zoom Zoom Zen.